Vous écoutez RTL.
Combien pour ce chien dans la vitrine
RTL.
Un jour pourtant, je le sais bien, Dieu reconnaîtra les chiens.
La curiosité est un vilain défaut.
Si Denis Bonnec, Thomas Hugues.
Vendredi dernier, on célébrait la journée mondiale du chien. Les chiens, on les aime depuis des millénaires. On les aime, ils nous accompagnent dans la vie. On les chante aussi. Tiens,
ils accompagnent les punks aussi. Pour faire la transition avec le thème. On en croise beaucoup dans les festivals l'été.
Ils accompagnent tous les hommes et les femmes du monde. Enfin, pour nous, l'occasion, les curieux, de se poser 1000 questions sur ce fameux meilleur ami de l'homme. Bonsoir, Dorica Lucassi.
Bonsoir.
Bonsoir, bienvenue.
Vous êtes écrivain.
Merci.
Vous publiez 100 chiens qui ont fait l'histoire. C'est aux éditions de L'Opportun. Vous aussi, vous avez un meilleur ami?
Oui et non, parce qu'en ce moment je n'en ai pas, mais on pense qu'on va régler ça très vite.
Très bien, la fidélité, on dit que c'est la première.
Vous avez eu des chiens, vous, Sidonie?
Oui, j'en ai eu, j'adorais ça quand j'étais petite, et maintenant je trouve que c'est plutôt une contrainte.
Ah, moi aussi, j'adore ça, mais je vis dans un appart, donc
ben voilà,
c'est pas bien un
ça.
Chien dans un
Exactement.
Appart.
On dit que c'est la fidélité, c'est la qualité première d'un chien, c'est vrai?
Oui, c'est la chose à laquelle on pense en premier. D'ailleurs, il y a des tas de personnalités de l'histoire, de la culture qui se sont exprimées là-dessus.
Comme Voltaire, par exemple.
Voltaire.
Il semble que la nature ait donné le chien à l'homme pour sa défense et pour son plaisir. C'est de tous les animaux le plus fidèle. C'est le meilleur ami que puisse avoir l'homme.
Oui, c'est une très belle citation. Et en fait, Voltaire, il comptait parmi les grands amis des animaux, parce qu'il y en avait aussi des ennemis, on va dire. Et je connais aussi une citation qui me plaît beaucoup et qui est de Lamartine, et qui disait que c'est le chien qui apprend à l'homme l'amitié. Ça va un peu dans le même sens. Ouais. Et c'est vrai que d'ailleurs, le livre est structuré selon les qualités des chiens, donc d'une façon thématique. Et le premier chapitre, c'est justement la fidélité, parce que c'est à quoi on pense en premier.
Oui. Alors justement, une grande histoire de fidélité canine. Ce chien qui s'appelait Bobby, un chien écossais, on est au 19e siècle. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce Bobby?
Oui, alors voilà, là c'est un chien un peu particulier. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas vécu dans l'ombre d'un grand homme. Mm-hmm. C'est un chien un peu anonyme. Enfin, anonyme, on connaît son nom quand même. C'est Bobby. Mais il a été fidèle à son maître. Et son maître, dont on a oublié le nom, il avait l'habitude de traîner un peu dans le quartier. Enfin, il devait probablement habiter ce quartier. Et ensemble, avec son chien, il prenait ses repas dans un pub à côté du cimetière. Alors j'ai
en
une
Écosse,
prononciation en Écosse,
ouais.
Voilà. Graveyard, enfin, je ne sais pas si je prononce comme il faut.
On vous le laisse. On ne va pas essayer de le prononcer.
D'accord, je vois.
On ne va pas assumer le risque.
Tous les mots un peu bizarres, on peut remplacer par waf waf aussi.
Oui, c'est pas mal.
Je suis d'accord.
Donc alors, on a un maître et son chien, le maître qui se balade dans le cimetière de la ville en Écosse.
Voilà, c'est exactement ça. Et puis c'est à Édimbourg, c'est une très belle ville et tout. Et puis un jour, le maître du chien décède. Et le chien, il décide de ne pas quitter cet endroit, enfin la tombe de son maître.
Et pendant combien d'années?
Pendant 14 longues années, il a vécu dans le cimetière. Il s'éloignait parfois pour aller manger dans le pub, comme il le faisait du temps de son amitié avec ce maître. Et donc voilà, les gens du quartier ont dû être émus. Ils le voyaient tous les jours. Ils ont continué à le voir après. Et ils ont décidé, après sa mort, de perpétuer sa mémoire en érigeant cette statue qui interpelle un peu le visiteur, le touriste.
Ça, c'est assez courant. Je lisais dans la presse brésilienne qu'il y a un chien en ce moment même qui attend depuis 8 mois devant l'hôpital où son maître est mort. Il l'attend et il l'attend toujours. Et donc, il y a des tas de passants qui le nourrissent et qui le consolent.
Vous nous disiez, Dorica Lucacci, que vous êtes intéressée aux chiens qui ont fait l'histoire, souvent grâce à la notoriété de leur maître, évidemment. Oui. Alors, on pense au roi de France. Il y en a pas mal dans votre livre. On en croise quelques-uns. Tiens, par exemple, on va commencer avec le plus grand, Louis XIV. Il en avait beaucoup, des chiens.
Oh oui, alors tous les rois de France ont aimé les chiens, et pas que les rois de France d'ailleurs. Ouais. Mais bon, on va s'en tenir à...
Louis XIV.
Louis XIV et le roi Soleil. Alors, il en avait plusieurs, parce qu'il aimait aussi la chasse. Mais surtout, il en avait 7 qui étaient ses favoris, ses préférés, et pour lesquels il avait aménagé, à proximité de ses appartements, une pièce qu'on appelait la chambre des chiens de roi, du roi. Pardon.
Donc alors dans le château.
Dans le château de Versailles.
Et parmi ses favoris, il y avait encore une favorite, c'est ça?
Oui, c'est ça. Alors, le nom de cette petite chienne, Malice, je ne sais pas s'il était prédestiné, mais c'est vrai que c'était assez malicieux parce qu'elle avait, elle avait participé en quelque sorte aux intrigues amoureuses de son maître.
Mais comment ?
Parce que, donc, on est à la. À l'époque où Madame de Maintenon avait de Montespan, pardon, je me trompe, je suis désolée. Donc avait disputé la place dans le cœur du roi, la place de Louise de la Vallière. Et donc
il y avait les deux maîtresses qui vivaient à côté.
Il y avait les deux maîtresses qui vivaient vraiment dans des appartements contigus. Et le roi, il était un peu embarrassé parce que pour aller voir sa maîtresse actuelle, donc la Montespan, il fallait qu'il traverse l'appartement de l'ancien.
Alors à quoi lui servait Malice ?
Et donc, qu'est-ce qu'il faisait ? Il prenait la petite chienne avec lui, il faisait un peu la conversation à Louise de la Vallière, et puis en passant, il lui laissait le chien en guise de consolation en quelque sorte. C'était probablement pas la meilleure solution qu'il aurait pu trouver, mais bon, c'était quand même...
Ah, ce Louis XIV, quel facétieux.
Et Malice, donc, elle jouait le jeu avec Louis XIV, quand même. La chambre aux chiens, avec 7 chiens, quand on sait comment c'était difficile pour les courtisans d'avoir de la place à Versailles, parce que les mètres carrés étaient très, très recherchés,
ça devait
faire grincer quelques dents.
Et d'ailleurs, depuis quand le chien est le meilleur ami de l'homme et de la femme ? On vous raconte leur rencontre il y a quelques milliers d'années. À toutes les curieux.
Vous écoutez RTL, première radio de France.
20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
On vous raconte l'histoire des chiens qui ont marqué leur temps, ce qui était
et leur territoire.
Souvent avec des propriétaires évidemment prestigieux tout au long de notre histoire de France et de l'histoire du monde. On était avec les rois de France et Louis XIV tout à l'heure grâce à notre invité Dorica Lucacci. Alors là, on va remonter un petit peu dans le temps. On est au XVIe siècle, c'est la grande période et néfaste période des guerres de religion en France. Henri III, c'est l'un des rois qui est menacé à l'époque et il se protège avec ses chiens. C'est quoi cette histoire ? D'abord, quels sont ses chiens ?
Alors, il aimait les chiens. Et il aimait les petits chiens, les minuscules, les bichons.
D'accord.
Et il en avait 3 qui avaient de drôles de noms, Liline, Titi et Mimi.
D'accord.
Qu'il portait dans une corbeille décorée et qu'il attachait autour de son cou. Et quand il ne les quittait jamais. Quand il se déplaçait, la corbeille elle allait à droite à gauche. Quand il s'asseyait, la corbeille était sur ses genoux. C'était un drôle de chien, mais drôle de roi aussi.
C'est quoi pour assurer sa défense?
Je pense que
les bichons allaient le protéger quand même.
En même temps,
c'est ce que raconte l'histoire.
C'est vrai, mais
en
c'est
même
vrai.
Temps, il paraît que ces chiens étaient justement, ils étaient dressés et ils signalaient. Sentir les dangers et signaler toute présence indésirable. D'ailleurs, quand le jour, parce que là on parle de dernier jour de ce malheureux roi, donc il était à Saint-Cloud, poursuivi par la Ligue, parce qu'il avait fait tuer Henri de Guise, enfin bref, on va sauter tous ces détails. Et le moine Jacques Clément, il réussit à s'introduire chez le roi. Et les 3 chiens, ils se mettent dans un état indescriptible. Ils aboient, ils font une agitation pas possible. Mais le roi ne tient pas compte de cet avertissement parce qu'il est rassuré par la présence de ce moine. Il aimait bien les moines, le roi. Et ben, c'était malheureux pour lui parce qu'il s'est fait poignarder. Il est mort dans la nuit, des suites de ses blessures.
Toujours écouter un bichon qui a
toujours écouté les
moralités. Cette histoire d'amour entre les hommes, les humains avec les chiens, ça remonte à quoi ? Je disais plusieurs milliers d'années, c'est à peu près ça ?
Oui, alors il y a tellement d'hypothèses voilà, donc il y a des scientifiques, des voix qui disent que ça remonte à 50 millions d'années. Alors ça me semble vraiment beaucoup.
La première domestication,
non, c'est surtout des ossements d'animaux qui ressemblaient à des chiens. Après, on a découvert aussi en Sibérie ou en Russie centrale, il y a 10 000 ans, 12 000 ans, on a découvert des... Oui.
Non, allez-y, terminez votre
donc, phrase. On a découvert des ossements, des restes des traîneaux qui étaient traînés par des chiens.
Et même un corps, un squelette qui caresse, dont la main humaine caresse un chien, c'est ça, un canidé
oui,
en tout
oui,
cas
oui, c'est ça. On dit que c'est à peu près... 9000 ans avant notre ère que la domestication du chien par l'homme a pu commencer.
C'était donc, quoi le rôle du chien c'était un défenseur, un ami, la fidélité.
Est-ce que, peut-être pas tout de suite un ami. Je pense que à ces époques reculées, l'homme n'était pas encore sédentarisé. Le chien a dû participer en quelque sorte. C'était un chasseur et le chien a dû s'associer en quelque sorte à ses chasses. Il a dû l'aider en le protégeant la nuit. Ou...
En goûtant à sa place aussi, j'ai découvert ça dans votre livre Sans chien qui ont fait l'histoire aux éditions de L'Opportun, oui. Qu'entre le 15e et le 16e, on était obsédé par l'empoisonnement et qu'on n'hésitait pas à demander à un chien de goûter à sa place, c'est ça?
Oui, c'est ça. On faisait ça parce que, en effet, il y avait beaucoup d'empoisonnement. Les gens étaient méfiants et on utilisait des prisonniers pour goûter les plats du roi. Sauf que quand les plats étaient empoisonnés, évidemment, les prisonniers, ils mouraient. Donc, on a fait de plus en plus appel au service des chiens. Et on a d'ailleurs un exemple célèbre concernant Henriette d'Angleterre, la femme du frère du même Louis XIV, dont on a déjà parlé, la femme de monsieur. Donc, elle venait de boire une boisson à la... ça m'échappe... à la chicorée. Et elle se sent très mal d'un coup, elle a des maux de ventre, elle se croit empoisonnée. Et son mari, pour avoir le cœur net, lui conseille de faire goûter la boisson à son chien. Mais elle refuse, et je pense qu'elle refuse par amour pour son chien.
Elle est morte de
Elle est morte peu de temps après, oui.
Voilà encore une histoire d'amour et de fidélité entre l'homme et le chien. Il y a de belles histoires et il y en a des beaucoup plus sombres. Tiens, quand par exemple on accole le nom d'Hitler à celui de ses chiens favoris, c'est ce qu'on va vous raconter tout de suite.
Vous écoutez RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Des vies de chiens, c'est ce que l'on vous raconte dans la curiosité ce soir avec l'écrivain Dorica Lucacci qui s'est passionné pour les 100 chiens qui ont fait l'histoire. Il y en a bien d'autres, mais il a fallu choisir évidemment. Des histoires dont vous pouvez vous régaler aux éditions de L'Opportun, mais on en raconte dans l'émission. Moi j'ai découvert par exemple la passion d'Hitler pour les toutous. Alors c'est vrai que c'est assez bête, mais on n'imagine pas forcément qu'un dictateur puisse avoir des gestes affectueux envers un chien. Et pourtant, il en a aimé plusieurs des chiens. Sa première rencontre, c'était un fox terrier, son premier coup de foudre.
Oui, ça m'a surprise, moi aussi.
Qui se rencontrent comment, ces deux-là?
Alors, le premier chien connu, je vais dire, parce que peut-être qu'il en a eu d'autres pendant son enfance, on n'en sait rien, mais le premier chien connu, il l'a rencontré dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale. Hitler était un soldat, et ce chien, il s'était égaré dans les tranchées, il l'a trouvé, il s'en est occupé, et apparemment, il s'en est très bien occupé, parce qu'il l'a dressé, il lui a fait faire des tours, et on lui a même offert de l'acheter, sauf qu'il n'en a pas voulu. Donc ce qui prouve qu'il avait quand même une certaine attirance envers les animaux, envers le chien en particulier.
Et ce chien s'appelait Foxle,
oui.
XL à la fin, mais ils n'ont pas fait long ménage ensemble. Qu'est-ce qui est arrivé à Foxle?
Parce que Foxle a été volé. Donc, quelque part près de Colmar, à la fin de la Première Guerre, Hitler s'est retrouvé sans son chien préféré. Voilà. Mais il y a eu un autre chien qui est venu le remplacer. On saute quelques années, on est en 1933. Hitler venait d'accéder au pouvoir et on lui offre une chienne, une Scottish Terrier, du nom de Burley. Là, on voit quelque chose d'assez intéressant. Hitler, grand chef de guerre et conquéreur du monde, enfin, c'est ce qu'il voulait, il ne veut pas donner de lui une image de faiblesse. Donc, quand il est en public, il se montre extrêmement froid et dur avec cette chienne. En revanche, en privé, il devient câlin,
Gaga,
affectueux. Voilà, exactement. Et puis, on saute encore quelques années, après la défaite de Stalingrad, on lui offre une autre chienne, Blondie. Alors, cette fois-ci, c'est un grand chien, c'est un berger allemand. Et Hitler, il a aussi encore changé. Et là, il n'a plus peur de montrer son affection envers son chien.
On voit beaucoup de photos d'ailleurs de lui. Il pose avec son chien, il en est fier, il le nourrit devant les photographes et devant les Allemands.
Exactement. Et il aménage d'ailleurs son bunker de façon à lui faire faire de l'exercice. Et il s'occupe lui-même de sa nourriture, de son dressage. Et par exemple, il lui fait sauter des obstacles très hauts. Cette chienne, elle marche en équilibre sur des poutres. Ou alors, on lui...
Le fait de dresser son chien, c'était quoi comme symbole pour Hitler? C'était un symbole de puissance, là aussi, de pouvoir? Qu'est-ce qu'il voulait démontrer?
Je pense que ça lui donnait une satisfaction de voir le pouvoir qu'il avait, parce qu'il il n'arrêtait pas de comparer les hommes aux animaux et surtout aux chiens. Et il disait que la comparaison, c'est toujours l'animal qui sort mieux. Je pense que effectivement, il montrait qu'il avait du pouvoir non seulement sur les hommes, mais aussi sur les animaux, et ça devait lui donner un sentiment de toute puissance et de force.
Cette chienne, Blondie, elle a survécu à Hitler ou pas?
Ah non, elle n'a pas survécu parce que... quand tout était perdu, quand il a vu qu'il avait perdu la guerre et qu'il n'y avait plus rien à espérer, il a demandé à son médecin de l'empoisonner. Et en plus, ce qui fait encore plus mal au cœur, c'est que cette chienne, elle venait d'avoir des chiots elle a péri avec sa portée. Et puis, son maître, Hitler, il s'est suicidé lui-même et sa femme quelques jours après.
Alors, il y a un autre chien qui a fait la une de la presse dans l'histoire, c'est celui du président américain Franklin Delano Roosevelt. Comment il s'appelait ? Fala, c'est ça?
Ah oui, Fala, oui.
Il a une belle carrière, ce chien. Assisté à de nombreux grands événements mondiaux.
Oui. Alors, il faut dire déjà que tous les présidents américains étaient des grands amateurs de chiens. À commencer par le premier,
George Washington. On en parlera tout à l'heure, d'ailleurs. Notre prochain invité vient nous parler des présidents américains et on parlera de Washington.
D'accord.
Ça fait la transition, c'est bien. Oui. Et alors, Fala, ce chien de Franklin Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, c'est quoi comme race, tiens, déjà? C'est un terrier, c'est ça?
C'est un terrier écossais.
Oui, écossais, voilà.
Plutôt un grand chien, ça? Je vois pas à quoi ça ressemble.
Oui, c'est un plus grand chien, et il tient son nom d'ailleurs d'un ancêtre écossais du président. Fala accompagne partout Roosevelt. Il aime tous les moyens de transport. Il prend le bateau, l'avion, le train, indifféremment. Et d'ailleurs, c'est assez amusant quand à un moment donné, le président est reçu sur un bateau de guerre, un navire de guerre, et les soldats sont tellement gaga de son chien qu'ils veulent des souvenirs. Alors, il coupe des poils, des touffes de poils, et le président ne comprend pas pourquoi son chien
a des trous un peu partout sur le pelage.
Voilà, exactement. Et puis c'est ce même chien qui a assisté à un événement politique important, à la signature de la charte d'Atlantique avec Churchill, et on voit sur la photo le chien
au pied du président Roosevelt.
Voilà, exactement.
Dans votre livre Son chien qui ont fait l'histoire aux éditions de L'Emportin, vous évoquez aussi la passion de Georges Clemenceau pour son chien. Alors lui, il a carrément un chien très indépendant, il s'appelle Dunley. C'était quoi son truc? De se balader tout seul, mais en carrosse, c'est ça?
Oui.
Alors, pas vraiment en carrosse.
Oui, c'est un sorte
de carrosse, un fiacre.
Ouais, voilà. Oui, il aimait ça. Et d'ailleurs, il s'en privait jamais. Donc, dès qu'il voyait un fiacre libre, il sautait dessus. Il montrait son collier au cocher. Sur le collier, évidemment, il avait marqué l'adresse. Et le cocher n'avait qu'à le conduire à l'adresse indiquée.
Et Clémenceau payait la course, c'est ça?
Et c'est Clémenceau qui payait la course, exactement.
C'est pas le chien, oui.
Mais en fait,
c'est qu'on était honnête chez les Clémenceaux.
Ben, j'espère.
Oui, c'est ça. Et on trouve des photos de Clémenceau avec ses chiens, parce que Danley, c'était pas le seul chien de Clémenceau. Mais il paraît que tous ont eu une forte personnalité, ce qui ne nous étonne pas quand on connaît leur maître.
Oui, mais c'est un attribut du pouvoir, le chien.
Les présidents de la République, comme ça,
là, ouais. Si on se rapproche de nous, la 5e ouais. République, pratiquement tous les présidents de la 5e ouais. ont eu un chien. Le plus connu, c'est qui? C'est peut-être le chien de François Mitterrand? Une chienne, une labrador noire, ça, elle
s'appelait. Oui, c'est Baltique. Baltique, ouais. Oui, on lui a même fait signer des mémoires après la mort de Mitterrand. en effet, tous les présidents français, comme les présidents américains, enfin, je ne sais pas s'ils s'inspirent les uns des autres, mais ils aiment bien avoir à leur côté un chien.
Baltique, qui a même sa chanson.
Ils ont peut-être eu peur que je pisse sur le marbre du bénitier, ou pire que je m'accroupisse devant l'autel immaculé. Lève la patte quelque part dans les allées où siège cette foule ingrate qui nous parle d'humanité. Ils ont considéré peut-être que c'est un amour pas très catholique que celui d'un chien pour son maître. Alors ils m'ont privé de cantique. Un jour pourtant, je sais bien.
C'est Renaud sur RTL. Baltique, bon, alors un indice pour le futur président de la République française, il a forcément un chien.
Ah, ça peut être qu'ils en ont
un indice.
Tous,
hein. D'accord, bon, alors ça va pas nous aider.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Il était où le gentil Tiyuki? Où il était le gentil Titoutou?
Comment s'appelle-t-il votre chien, Thierry?
Il s'appelle Teddy, c'est un jeune labrador. Le président Giscard d'Estaing, qui l'a vu, m'a dit on va le marier à Olympe, qu'il a eu de la reine d'Angleterre. Alors il a dit mon chauffeur passera le chercher, je vous le ramènerai 3 jours après, il aura des poches sous les yeux.
RTL.
Authentique.
Sidon Bonnec, Thomas Hugues.
Il était où, hein, le Yuki? Il était où, le gentil Titoutou?
Quand Thierry Leluron raconte l'histoire, la rencontre de son chien avec celui de Valéry Giscard d'Estaing, c'est très bon. Merci beaucoup, André, d'avoir trouvé ça. Et puis évidemment, Richard Gottener et son Yuki. On vous raconte l'histoire de ces animaux de compagnie, gardiens des maisons, chasseurs, soldats. Le chien, en tout cas, c'est l'animal le plus proche de l'homme et celle qui nous raconte ses destins canins. C'est l'écrivain Dorica Lucacci. Des chiens fidèles, mais aussi courageux. Sidonie l'évoquait à l'instant. Ce Jack, lors de la Première Guerre mondiale. Qui était ce chien? Qu'a-t-il fait?
C'est un chien britannique qui a été envoyé en France comme chien messager. Et c'est un des nombreux chiens messagers de cette grande guerre. Malheureusement, une guerre très meurtrière pour les animaux comme pour les humains. Et
ça veut dire quoi, un chien messager? Il faisait combien de kilomètres, par exemple, pour porter son message?
Ça
dépendait.
Il n'y a pas forcément une limite. Il devait
plusieurs kilomètres.
Plusieurs kilomètres. Alors l'exemple qu'on a trouvé, donc ce Jack, il a fait par exemple 6 kilomètres. La situation était désespérée. Ils étaient encerclés par les Allemands. Le bataillon risquait d'être fait prisonnier. Il y avait toute communication a été coupée. Donc la seule solution était d'envoyer le chien Jack, avec un message à l'état-major qui se trouvait à 6 kilomètres.
Alors 6 kilomètres, ça semble peu et beaucoup à la fois, mais surtout ce sont les obstacles qu'il a croisés, ce Jack.
C'est ça, c'était des kilomètres pas faciles à parcourir, parce qu'il fallait qu'il se faufile entre les balles, qu'il saute de tranchée en tranchée, vraiment, il a été touché d'ailleurs 2 fois. Rien ne l'a arrêté. Au bout de ses forces, il s'est écroulé devant l'officier à qui il a remis son message et malheureusement, il a rendu l'âme. Mais sa mission a été accomplie et en effet, il a réussi à sauver son bataillon. Et son exemple est un parmi les milliers de toutes les guerres, d'ailleurs même des guerres modernes, parce que vous savez, même les guerres du XXe siècle et même de nos jours, on continue de former des chiens des chiens renifleurs ou des chiens sauveteurs. Donc le chien continue à rendre service à l'homme.
Ces destins de chiens, vous les racontez dans ce livre publié aux éditions de L'Opportun, 100 chiens qui ont fait l'histoire. Tiens, parmi eux, on va raconter maintenant l'histoire d'Antis. Alors on passe d'une guerre à l'autre, on est pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous dites que c'est un héros qui était méconnu de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi ? Qu'a-t-il fait ?
En général, les animaux sont des héros méconnus. Ouais. On les connaît moins que leur maître.
Parfois, ils sont décorés.
Parfois, ils sont décorés. C'est vrai aussi, oui. Mm-hmm. Mais alors, Antis...
Petit chien alsacien, c'est ça ?
Oui. Donc, il a été découvert. Celui qui l'a découvert, c'était un pilote. Il a été obligé d'atterrir en urgence dans une ferme alsacienne. Et il a trouvé dans les décombres un petit chiot qu'il a nommé Antis. Il l'a pris avec lui et ça a été le début d'une aventure incroyable.
Il faut dire que c'est un aviateur tchèque.
Ah oui.
Et qu'il va l'embarquer avec lui. Ils vont, c'est ça, voler ensemble.
Ils ont volé ensemble. Ils sont allés donc ils ont volé vers le Gibraltar, mais en chemin l'avion est tombé dans la mer. Ils ont été faits prisonniers par les Italiens. Les Italiens ont été attaqués par la Royal Navy. Donc vraiment, c'était, on a l'impression de lire un roman. Vraiment, c'est quelque chose de...
Mais c'était simple, c'était facile pour ce petit chien de monter à bord, ou il a fallu adapter l'avion à la présence d'un animal?
Dans un premier temps, donc c'était fait comme ça. Et puis après, c'est vrai que vers la fin, donc lorsque leur relation d'amitié était vraiment très très forte et qu'ils ne pouvaient plus se quitter, il paraît que, oui, en effet, on a adapté on lui a mis des casques, on a adapté un peu l'avion pour que l'ami canin puisse aussi participer.
Et l'histoire raconte qu'en 1940, alors que Londres est sous les bombes, ce petit chien alsacien va sauver des vies.
En effet, pendant le bombardement à Londres, il a sauvé plusieurs vies parce que il avait entendu dans les décombres des femmes, des enfants ensevelis, et il a signalé ainsi au sauveteur où il fallait chercher. Et puis autre chose qu'il a fait et qui est hors commun, c'est que une fois son maître est allé en mission en le laissant à Londres, et il a été grièvement blessé.
Oui.
Ce qui fait que le chien, vous vous rendez compte, il était vraiment à une grande distance, il l'a senti. Il est sorti dans la rue et il a commencé à hurler à mort. Et on a eu du mal à le calmer. Et tout le monde a été vraiment étonné de découvrir qu'il y avait une raison à cela, parce qu'on avait l'impression qu'il était devenu fou. Or, pas du tout. Il avait senti que son maître était dans le pétrin. Heureusement, tout s'est bien terminé, tout a bien fini. Et ils se sont rencontrés et puis il a plus laissé à terre.
Oui. Il y a vraiment beaucoup de récits comme ça, d'histoires assez incroyables dans votre livre de Rika Lukacsy, ces 100 chiens qui ont fait l'histoire aux éditions de L'Opportun. Alors on va prendre notre machine à remonter dans le temps, on aime ça dans la curiosité sur RTL. On retourne au 12e siècle, on est à Saint-Malo, et ce sont des chiens qui gardent la ville. Alors, on voudrait situer la scène. Combien ils étaient, ces chiens, et que faisaient-ils?
Alors, je suis reconnaissante d'évoquer cet épisode parce que je l'adore. Enfin, c'est un de mes préférés.
Alors, racontez-nous.
Parce que j'aime beaucoup Saint-Malo. Je suis allée plusieurs fois. Et puis j'aime autre chose à Saint-Malo, j'aime Chateaubriand, Les Mémoires d'Outre-Tombe. C'est vraiment un livre que j'en connaissais par cœur, des fragments, quand j'ai été étudiante. Et donc là, il y a Saint-Malo, il y a les légendes, il y a les chiens, il y a tout.
Mais alors là, on parle de chiens qui gardaient la ville, c'est oui. Ça, des chiens de garde?
Oui, en effet. À cette époque-là, il y avait beaucoup de pirates, de voleurs, de bandits qui rôdaient un peu sur les plages, qui arrivaient par la mer. Et ils avaient trouvé cette solution originale. Donc le soir, il y avait un son de cloche qui signalait aux habitants de la cité que les portes allaient se fermer. Et à ce moment-là, on relâchait les chiens. C'était des dogs, donc des grands chiens, des chiens de combat.
Impressionnants, ouais.
Voilà. Et jusqu'au petit matin, ils étaient libres. Ils allaient défendre la ville.
Ça veut dire qu'il y avait un couvre-feu pour les habitants?
Évidemment.
Parce que ces chiens étaient dangereux.
Oui, évidemment. Et puis le matin, c'est toujours le son de cloche qui signalait que on pouvait ouvrir les portes, les chiens étaient rentrés. Et d'ailleurs, les habitants de la cité malouine, ils payaient un droit de chiennage ou pain de chien.
Une sorte d'impôt ?
Une sorte d'impôt pour nourrir ses gardiens communs.
Mais ça a duré
commun.
Longtemps ?
Et ça a duré près de 6 siècles. Et ça a pris fin d'une façon malheureuse. Et Chateaubriand, mon écrivain, il en parle, peut-être pas favori, mais parmi les, ouais. parmi les écrivains que j'apprécie beaucoup. Donc il en parle. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'il parle en même temps qu'il essaie de mettre en valeur cette ville par des grands noms. d'hommes, de grands hommes. Il parle par exemple de Surcouf, le corsaire, il parle de la maîtrise, et puis il dit, et voilà, il y a aussi les, pour ne rien oublier, pour ne rien omettre, c'est d'ailleurs, ce sont ces mots, il y a les chiens, les dogs.
Les dogs de Saint-Malo.
Les dogs de Saint-Malo.
Qui ont disparu comment,
voilà,
comment
ça s'est arrêté ?
Qui ont été mis à mort, oui, qui ont été tués en fait, parce qu'il y a eu un accident. Un soir, un jeune officier est rentré plus tard que prévu. On dit qu'il avait été à un rendez-vous amoureux. Ah. Il est rentré, il s'est fait
dévorer
par ses chiens. Et c'était un accident qui a marqué les esprits. Donc on a pris la décision de les tuer.
Et des histoires fantastiques comme ça, il y en a plein dans votre livre d'Erika Lucacci, 100 chiens qui ont fait l'histoire aux éditions de L'Opportun. Merci infiniment.
Vous écoutez RTL.